Je ne pense pas que le siège ait eu le temps de prendre ma température et j'ai rejoint mon épouse au bout de la rue. Résultat, il est devant vous. Ça y est, ça passe? Non. Ah! Il a dit oui. Merveilleux. Alors, oui. Voilà. Voici quelques semaines, nous avions commencé l'étude de Malachie, puis on a fait une parenthèse. Cette parenthèse, je ne l'ai pas fermée, de sorte que de la demande de plusieurs, et de Jacques en particulier, il m'a demandé de poursuivre l'étude sur le monde dans lequel nous vivions. Un monde qui se croit sage et qui est rentré dans sa propre folie, qui refuse l'amour de Dieu et qui considère la folie de la prédication comme étant le seul moyen que Dieu met à la disposition du monde pour devenir sage. La proclamation de l'Évangile est le moyen par lequel Dieu agit dans ce monde et dans les cœurs, par lequel il a décidé de sauver sa créature. Le monde bascule dans la terreur, dans la cruauté. C'est ce que nous disions voici un mois. Et ce monde veut construire la paix sans le prince de la paix. Et c'est dans un tel monde que nous, enfants de Dieu, les chrétiens, sommes appelés à vivre. On est les pieds dans le monde, mais notre tête n'est pas dans le monde. Notre tête, elle est en haut. D'où nous attendons le Christ, de sorte que ce ne sont pas les pensées de ce monde qui doivent nous animer, mais nous devons amener nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu et de Christ. Et comme nous le disions la dernière fois, nous sommes invités à être des vainqueurs afin de recevoir l'approbation du Seigneur. Sache, dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. La fois passée, j'ai noté la date, le 18 janvier, c'était un sujet unique pour parler de ces temps difficiles, de ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Et puis, voilà, je me suis laissé entraîner par l'Esprit de Dieu qui me parlait à moi. Donc voilà, ça a été une parenthèse qui ne s'est jamais fermée. Et puis, donc, nous avons évoqué l'avertissement que Dieu nous donne. Soyez sur vos gardes, ne vous laissez pas entraîner par ce que le monde propose. Soyez attentifs à ma parole, moi je suis fidèle à celle-ci. Et puis aujourd'hui, dans le prolongement de ces temps difficiles, nous allons mettre la loupe sur Israël. Il y en a parmi nous qui sont plus spécialistes que moi sur Israël, d'autres sont plus historiens que moi. Je n'ai rien de cela, mais je voudrais quand même partager quelques textes de la parole de Dieu qui se rapportent à Israël quant aux événements actuels que nous vivons, pour voir la consolation que Dieu nous donne, pour l'exhortation qu'il nous donne d'être prêts pour son retour, pour l'Église. Israël attend donc le retour en gloire, là où le Seigneur lui-même sera glorifié dans ses saints, pour installer son règne de paix et de justice. Mais dans cette attente, il nous demande d'être des serviteurs fidèles à sa parole. Et puis, s'il plaît à Dieu, nous essaierons de clôturer ces derniers temps, parce qu'on peut prolonger pendant des semaines et des semaines sur ce sujet, sur les temps difficiles par rapport aux nations, c'est-à-dire à nous. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, bien que ce soit un texte qui se rapporte à Israël, il y a des enseignements pour chacun de nous, cela a été placé pour nous, pour notre exhortation, et dès lors c'est ce sujet que nous allons aborder. Le contexte, c'est que les disciples ont demandé quelques questions sur Jérusalem et en particulier sur le temple à Jérusalem, et le Seigneur va leur donner quelques réponses. Nous ne lirons que les quelques premiers versets de ce chapitre à partir du verset 3. Matthieu 24, verset 3. Et comme il, Jésus, était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier disant, « Dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de la consommation du siècle, de la fin des temps. » Je ne parle pas de la fin du monde. Plusieurs font un amalgame entre fin des temps et fin du monde. Le fin du monde, c'est lorsque nous attendons des nouveaux cieux, une nouvelle terre, après le millénium, où les nations seront jugées. Mais nous parlons ici de la fin des temps, où Paul disait à son enfant Timothée, ce sont des temps difficiles. Je prolonge verset 4. Et Jésus, répondant, leur dit, c'était le sujet du mois de janvier, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant, « Moi, je suis le Christ. » Et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. On y est. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut, c'est selon l'histoire que Dieu donne au monde pour avoir négligé sa grâce. Car il faut, je ne sais plus où je suis, le bruit de guerre, car il faut que tout arrive, mais la fin n'est pas encore. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des famines, des pestes, Ebola, etc. Des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Le commencement. Et si on prolongeait, ce que nous ferons la fois prochaine, nous verrions que c'est la désolation complète qui atteindra le monde. La désolation pour n'avoir pas mis Dieu à sa place. Récemment, pour ceux qui sont scientifiques, vers le 15 janvier 2015, il y a le bulletin des scientifiques atomiques, donc ceux qui s'occupent des cataclysmes, etc., annoncé par sa présidente, qui s'appelle Kenneth Benedict, et je cite, la grande aiguille de la célèbre pendule de l'Apocalypse, Ce sont ces mots. Et j'ajoute, j'ouvre une parenthèse, symbolisant pour cet organisme l'imminence d'un cataclysme planétaire nucléaire universel, je ferme la parenthèse, je reprends, la grande aiguille de la célèbre pendule de l'Apocalypse a été avancée de 2 minutes. La dernière fois, elle a été avancée le 10 janvier 2012, d'une seule minute. Je ne veux pas faire, au travers de ce message paru dans ce bulletin des scientifiques et qui a été transmis par l'agence Belga, je ne veux pas amener de spéculation, loin de moi. Personne ne connaît ni l'heure, ni quand le Seigneur revient. Simplement attirer notre attention, nous rendre plus intelligents. Quand l'horloge des scientifiques avance, est avancée, elle indique maintenant, d'après la présidente, minuit moins 3 minutes, 23h57. Et elle disait, elle n'a jamais été aussi près de minuit. Évidemment, pour les scientifiques, il s'agit de certains critères rattachés à la science, à certains événements biologiques, à certains tremblements de terre, à certains essais nucléaires qui touchent la Terre et l'univers. Mais je pense, en écoutant ce bulletin, qu'en lisant la parole de Dieu et en regardant l'horloge de Dieu, c'est-à-dire les événements qui se rapporte aux Juifs, à la nation d'Israël, l'horloge de Dieu est proche de minuit. La fin des temps est déclarée, est déclenchée. Il y a des signes qui sont donnés dans la parole de Dieu qui se sont déjà accomplis et d'autres qui sont en train de s'accomplir et qui sont sur le point de se terminer. Le compte à rebours de l'horloge de Dieu, quand je regarde Israël, est donc déclenché. On est dans les dernières secondes de l'horloge de Dieu. Ce sont des temps difficiles, puisque le sujet est sur Israël, pour Israël et par voie de conséquence pour les nations. Parce que les nations n'ont pas compris le rôle essentiel du peuple d'Israël pour eux, pour elles. Sommes-nous prêts afin d'échapper à tout ce qui doit arriver avant le retour en gloire pour sauver Israël en gloire du Seigneur Jésus? Le premier des signes, je lis dans Matthieu 24 que nous venons d'ouvrir, mais au verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et aujourd'hui, il n'y a pas besoin de s'étonner comment cette parole est diffusée ici et là autour de la terre. Une photo que j'ai marquée là, que j'ai trouvée via Internet, via les satellites, via les différents médias, cette parole est diffusée partout. Alors viendra la fin. Premier signe, qui pour moi me semble évident. Deuxième signe, c'est le rétablissement d'Israël. Dieu n'a pas oublié Israël. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans Romains chapitre 11. « Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de moi, dit Paul, car moi aussi je suis un Israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu, qu'il a choisi d'avance. » Quelques années après la Shoah, 6 millions de victimes juives. Imaginez les habitants de toute la Belgique en 1940-45, là, qui sont exterminés. La Belgique disparaît. Et la Shoah a permis que, enfin, a permis, a fait en sorte qu'il y ait autant de victimes juives. Et c'est alors que le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, président du Conseil national juif, proclamait la naissance de l'État d'Israël à la face du monde après 19 siècles d'exil. La reconstitution du peuple hébreu à partir des Juifs disséminés sur la planète viennent maintenant reconstituer ce peuple, cette nation. N'est-ce pas le grand miracle de Dieu? Écoutez ce qu'il dit déjà dans le prophète Ésaïe. J'en ai sélectionné 3 seulement. Je vous dis l'Éternel en parlant de son peuple, en exil à l'époque. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel chapitre 11. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'ai juré à ton père Abraham de donner. Ézéchiel 20, « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. » Est-ce que nous ne voyons pas cela aujourd'hui? Il y a des Juifs qui préfèrent quitter la Belgique, quitter la France, quitter l'Europe, parce qu'ils se sentent moins en sécurité chez nous qu'en Israël. Et chaque année, des milliers de Juifs retournent dans leur pays. Je vous ramènerai. Voilà, les patriarches, ils ont salué cela à l'avance. Ils y croyaient à cette parole. Et nous, l'évidence est devant nos yeux. Cette parole se concrétise, prend forme. Je ne dis pas que tout s'arrose pour Israël. Parce qu'à un moment donné, il y aura une coalition de beaucoup de nations qui vont se liguer pour attaquer Israël et essayer à nouveau de l'anéantir. C'est écrit dans la parole de Dieu. Nous y reviendrons dans Zacharie. Mais malheur aux nations qui se ligueront contre Israël. Troisième signe, qui pour moi me semble évident, c'est la reconnaissance de la vieille ville de Jérusalem, qui, selon la parole de Dieu, a été foulée aux pieds par les nations. Et voilà que lors de la guerre des 6 jours en 1967 avec Moshe Dayan, hein, ah oui c'est marqué là, avec Moshe Dayan à la tête, voilà, il y a eu cette guerre qui a permis que Jérusalem refasse à nouveau possession de ce peuple. Et pour cela, Jésus en parlait dans le même dialogue avec ses disciples, mais repris dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 21, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. » Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y a une fin. C'est devant nos yeux. Je ne dis pas que tout est paix. On doit prier pour la paix de Jérusalem. Mais Jérusalem est reconquise. Quatrième signe, et je vais m'arrêter là parce que... Dans le monde entier, des centaines de milliers de Juifs se tournent vers Jésus-Christ, vers Yeshua. Et cela s'est produit, alors que cela ne s'était jamais produit depuis les temps apostoliques. Écoutez ce que Zacharie disait. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Avant, c'était la loi du talion, hein, ça l'est encore. Mais il y a un esprit de grâce et de supplication. Et lorsqu'ils seront dans le creux de l'épreuve, par les nations qui vont se liguer contre eux, écoutez ce que Zacharie dit. Et Jésus disait dans Matthieu 24, « Si je n'interviens pas dans ces moments-là, il n'y a plus personne qui existerait, qui serait vivant. » Et Zacharie prophétise en parlant de ce peuple, « Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement car sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Bien-aimés, aujourd'hui, des églises dans lesquelles il y a des non-chrétiens, des non-juifs, pardon, des chrétiens, constitués de juifs et de non-juifs, peuvent louer ensemble le beau nom du Seigneur Jésus. Il y a dans l'histoire pastorale, à un moment donné, dans le Borinage, il y a chaque année un week-end de la pastorale. Et ce week-end-là, il y avait un chrétien messianique qui avait été invité comme orateur. Et comme c'était la dernière année que j'étais parmi eux, ils m'ont demandé de présider la Sainte Cène. Et parmi les 1500, 2000 personnes présentes, chrétiens, alors qu'on allait célébrer la Sainte Cène, un appel a été lancé pour savoir si parmi nous, il y avait des juifs chrétiens. Quelques mains se sont levées. S'il y avait des arabes chrétiens, quelques mains se sont levées. Et cela reste gravé dans mes mémoires, dans ma mémoire. Je les ai fait approcher. Et ensemble, parce que le mur de séparation était ôté, nous avons célébré la scène du Seigneur. Mais quelle joie de voir qu'il n'y a plus en Jésus-Christ de mur qui nous sépare. C'est ce que des chrétiens juifs sont en train de vivre. Et dans la foi, nous nous sentons unis à eux. Des églises. Aujourd'hui, des milliers de juifs se tournent vers Jésus-Christ. Des chrétiens juifs et non-juifs forment un seul troupeau, comme Jésus le disait dans Jean chapitre 10. Et ce seul troupeau, c'est l'Église de Jésus-Christ. Mais bientôt, en tant que nation, nous l'avons lu, ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé. Ils célèbrent Yeshua. N'est-ce pas un miracle? On arrête là les signes parce qu'il y en a encore d'autres. Paul va énumérer quelques privilèges du peuple parce qu'ils sont adoptés, parce qu'ils ont été choisis par Dieu. Et nous lisons dans Romains chapitre 9 les 5 premiers versets. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même, dit Paul, être anathème, méprisé, rejeté et séparé de Christ pour mes frères juifs, mes parents selon la chair, parce que Paul était israélite, qui sont israélites, verset 4, à qui appartiennent l'adoption. Bien-aimés, ils ont été choisis par Dieu. Je ne dis pas que c'est un peuple qui est modèle, qui est un peuple à copier, non. Nous allons découvrir qu'ils ont leurs défauts, mais Dieu les a choisis comme moyen par lequel le salut allait s'étendre à toutes les nations. Christ est né au milieu d'eux. Et Dieu les a choisis, et je lis dans mes notes, Deutéronome chapitre 7, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, pas saint dans la pratique, ils en sont loin, mais mis à part pour proclamer le salut de Dieu qu'ils n'ont pas su faire. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. » Je t'ai choisi, dit l'Éternel, non pas parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples, mais parce que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Je vous ai choisi, dit l'Éternel, parce que je vous aime. L'adoption. À qui appartient la gloire? Dieu était au milieu de son peuple. Rappelez-vous du tabernacle. Rappelez-vous du temple. La gloire de l'Éternel est au milieu de ce peuple. À qui appartiennent la gloire? Et les alliances? Les alliances, un peu plus loin. Et les promesses, voyez là, le dernier jaune. Et les promesses, la différence, une alliance est un contrat entre deux personnes. Et nous avons chanté que Dieu est fidèle, mais le peuple est infidèle et dès lors, l'alliance a souvent été rompue, mais pas les promesses. Les promesses sont unilatérales. Dieu s'engage, donne des promesses à son peuple et il reste fidèle à ses promesses, il reste fidèle à son alliance, mais le peuple a souvent été infidèle à l'alliance qu'il a dite à l'Éternel. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, la parole donnée par Moïse sur le mont Sinaï, et cette parole qui nous est donnée, que nous avons entre les mains, et le culte, le service qui est rendu à Dieu, les sacrificateurs, les lévites. Et nous avons vu lors de l'étude de Malachie une partie que nous étions tous sacrificateurs. Et les promesses, et les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Des patriarches qui ont salué de loin Christ, qui l'ont vu, qui ont salué de loin la cité. Abraham qui a quitté tout. Et pour aller là, dans le pays que Dieu lui a promis. Quitte ton père, ta famille, ta parenté, va-t'en là. Il n'y a rien d'improvisation avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. C'est là. C'est où ça là? En Canaan. Et le mont Morija où Abraham a offert son fils. Son fils, C'est sur le mont Morija, c'est où? C'est à Sion. C'est sur le mont du Calvaire. C'est là où le temple a été érigé. C'est à Jérusalem. C'est là. Pas d'improvisation avec Dieu. Nous avons, nous, bien aimés, des événements qui nous parlent d'une parole d'un Dieu qui est fidèle. Et nous sommes exhortés à nous attacher de plus en plus à ce Dieu qui est fidèle et à sa parole qui reste éternelle. Les cieux et la terre passeront, c'est dans Matthieu 24, mais ma parole ne passera jamais. Je voudrais rappeler quelques événements récents, tout à fait récents, dans le but, qui avait pour but de pourchasser, de massacrer, d'exterminer les Juifs. Pas seulement les nazis, parce qu'on a toujours en tête les nazis. Mais je pense que c'est une volonté universelle depuis Jacob d'exterminer ce peuple. Il faudrait peut-être attirer ou se rappeler les Philistins dans le désert qui essayaient aussi d'attaquer le peuple. Et Moab qui ne voulait pas que le peuple rentre après le désert dans le pays promis, dans Canaan. Il y a toujours eu ces conflits, comme du temps du Seigneur Jésus, comme durant toute la période de l'Ancien Testament. Et puis, sans citer de nom, tous les pays qui sont autour du peuple d'Israël sont ligués pour attaquer Israël. Les missiles sont là, prêts à être projetés. Et cette haine, elle se propage dans les pays qui entourent, mais voilà, ça s'étend de plus en plus. Récemment, une volonté permanente d'anéantir le camp d'extermination d'Auschwitz. J'ai entendu lors d'un journal parler, télévisé, que le président Roosevelt ainsi que Churchill en Grande-Bretagne étaient informés par un juif venant de Pologne qu'il y avait des constructions à Auschwitz. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Rien. Pendant la guerre, le président américain n'a pas cherché, et ça je lis ça sur Internet, n'a pas cherché à aider les Juifs d'Europe, considérant que le principal objectif devait être l'écrasement du régime nazi. Et malgré la pression des Juifs américains, de la femme de Roosevelt et de l'opinion publique américaine et de Grande-Bretagne, le président ne dévia pas de sa directive. Allez, c'est tout fait pour Auschwitz. Et puis on s'appelle, parce qu'il y a un film, je me rappelle de cela, de la liste de Schindler. Voilà, pour moi c'est aussi un miracle. Comment comprendre qu'un industriel allemand, en plus du parti nazi, veut sauver quelques 1100 juifs du camp de concentration de, s'il y a des Polonais parmi nous, comment? Bravo. Oui, hein? Oui, c'est ça, quoi. On se rappelle de cette liste, c'est un fait réel. aujourd'hui Israël, enfin, pendant la guerre, plusieurs, j'en connais un ou deux, mais plusieurs ont caché des juifs dans leur maison, au risque de leur vie. Et aujourd'hui, il y a cette commémoration chaque année où Israël reconnaît, honore ces personnes en les appelant des justes. Allez. D'autres, je les cite, je ne m'attarde plus. Le musée à Bruxelles. Le journal satirique. Pas de commentaire. L'hypermarché à Paris-Vincennes. Les cimetières qui sont constamment saccagés. Des synagogues qui sont incendiées. Il y a aussi d'autres lieux de culte qui sont incendiés, mais on parle d'Israël, des synagogues qui sont incendiées, des rabbins qui sont agressés. Il y a des mémoriaux à Washington, à New York, en Israël, mais je ne prends que New York et Washington. De l'ONI, de l'Organisation des Nations Unies, qui a pour but de prôner la paix. Et il y a sur ces mémoriaux, un à Washington, l'autre à New York, il y a le texte d'Ésaïe chapitre 2, verset 4. Je ne sais plus si c'est Washington, non, c'est New York, où il y a une statue qui représente un homme puissant qui est en train d'écraser une épée et il en fait une charrue, un soc, donc pour labourer. Et il reprend ce texte et placé sur ce mémorial de leur glaive, Ésaïe 2, 4, de leur glaive, ils forgeront des socs. Et le texte continue, pour leur charrue, et de leur lance, ils feront des fossiles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Et l'autre monument, je pense que c'est Washington, enfin, peu importe, il y a ce texte qui est repris en jaune, on n'apprendra plus la guerre. Mais c'est un rêve. Est-ce du possible, du réel, quand on voit ce qui se passe. Écoutez, l'estimation de l'histoire sur une période de plus ou moins 4000 ans, il y a eu 15 000 guerres, c'est-à-dire 4 guerres par an. Il y a eu 3,5 milliards de morts. C'est-à-dire 70 millions par siècle. Et pour le siècle qui vient de se terminer, il y en a eu 150 millions, le double. Ça augmente. Le nombre d'années de paix, pour un mathématicien, c'est facile, 5%. 290 années dites de paix, et encore des paix très fragiles. Par contre, le bénéfice des industries d'armement, de l'armement, 900 milliards par an. Par an. Et à côté de cela, on voit des gens mourir de faim. Quelle honte! Pour ceux qui connaissent Dixmude, il y a une énorme croix de plusieurs dizaines de mètres de hauteur sur lequel il est, c'est AVVK, sur lequel il est Nightmare Horror. Plus jamais de guerre. Quel rêve. possible? Oui, quand le prince de la paix viendra lui-même régler toutes choses. Oui, on passe. Israël, Jérusalem, j'en ai déjà parlé. C'est là que notre salut s'est accompli. Un choix souverain de Dieu, malgré que le peuple soit difficile à gérer. Quelques textes que j'ai pris pour démontrer combien le peuple qui était selon le choix souverain de Dieu a été difficile. C'est Jésus lui-même qui s'approche de Jérusalem et il proclame en pleurant, « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Quelques jours après, alors qu'ils ont encensé le Seigneur Jésus, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », le peuple criait, « Crucifie, crucifie-le, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Le Fils même de Dieu était tué. C'est ce que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dira au peuple d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mais cela était selon le dessein de Dieu, il n'y avait pas de hasard. Étienne, lapidé, pour avoir proclamé toute l'histoire du peuple d'Israël, cette lapidation à laquelle Paul assistait, termine ce discours. Homme obstiné, tiens, j'ai l'impression d'entendre les paroles du Seigneur. Homme obstiné, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Mais quel peuple ! Il faut avoir beaucoup de patience de la part de Dieu pour avoir choisi un tel peuple. L'apôtre Paul dit ceci, malgré ce peuple, au cou raide, au cou orgueilleux, Paul dit, frère, et par son entremise, il s'adresse à nous. Frère, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour eux, pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Bien-aimé, est-ce là votre désir? Est-ce là l'objet de vos prières en faveur d'Israël? Bien sûr qu'ils soient sauvés de cette cataclysme, de cette cruauté qui s'adresse à eux, qui vont vers eux, cette violence. Mais qu'ils soient sauvés pour l'éternité, qu'ils reconnaissent Jésus-Christ, le Yeshua, comme le seul sauveur. Déjà du temps d'Abraham, Dieu fait dire, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La terre, les habitants de la terre, les nations n'ont pas compris l'importance de ce texte. Que Dieu s'est choisi Israël pour le salut des nations. Pour le salut. Christ est né là, là, pas de hasard. Il est né là en Israël. Il a accompli les merveilles de Dieu en Israël. Il a proclamé qu'il était le Messie, l'envoyé de Dieu. C'est là qu'il a révélé l'amour de Dieu pour nous, en s'offrant, en donnant son sang. C'est là qu'il est ressuscité. C'est là qu'il est monté au ciel, sur le monde. C'est là aussi qu'il va revenir pour établir son règne de paix et de justice. C'est par le hasard, c'est là. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui maudissent Israël. Je ne dis pas qu'Israël, il faut frapper des mains tout ce qu'il fait, hein. Je répète cela. Mais Israël est le peuple choisi de Dieu. Sommes-nous prêts, selon l'ordre que Dieu a donné à Moïse, pour Aaron, sommes-nous prêts à bénir ce peuple de cette manière, mais à nous bénir aussi les uns les autres de la manière que Dieu a donnée à Moïse et à Aaron. Sommes-nous prêts à nous bénir de cette manière? Écoutez cette bénédiction qui est adressée à Israël et à chacun d'entre nous. Éternel, Nombre chapitre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse. » C'est l'essentiel. Que l'Éternel vous fasse du bien, mes bien-aimés, vous enrichisse de sa grâce, de sa paix, de sa joie, de son espérance, qu'elle abonde en vous. Ça, ce sont les biens spirituels que notre Dieu nous donne. Et qu'il vous garde la bénédiction, mais aussi qu'il vous garde, c'est dans la durée du chemin qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, Israël, comme sur chacun de nous. Que l'obscurité, les ténèbres soient chassées. Le peuple d'Israël qui est assis dans l'ombre, qu'il soit éclairé par le Yeshua. Et qu'il t'accorde sa grâce. Bien-aimé, si nous croyons en Jésus-Christ, la condamnation n'est plus sur notre tête. Nous sommes des graciés en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu et par là même, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Que l'Éternel lève ou tourne sa face vers toi. Le mot original, c'est lever. C'est repris par David. Lever. Que l'Éternel lève les yeux vers toi. Est-ce que nous savons mesurer la profondeur de ce texte? Lever les yeux vers quelqu'un, c'est dire que la personne à qui on s'adresse est plus haute que moi. Je lève les yeux vers le Seigneur qui a fait les cieux et la terre pour recevoir son secours. Je lève. Mais ici, que l'Éternel lève les regards vers toi, Israël. Autrement dit, Dieu s'est fait petit par rapport à Israël. Dieu s'est fait notre serviteur, le serviteur d'Israël. Et en Jésus-Christ, Dieu est venu révéler qu'il désirait nous servir. Il est notre serviteur pour l'éternité. Luc chapitre 12, il se scindra lui-même en parlant du Seigneur Jésus. Et il nous servira durant l'éternité. Bien-aimé, que l'Éternel lève les regards, lève sa face vers toi, Israël. Quoi, Dieu plus petit ? Oui, Dieu s'abaisse et l'a prouvé en Jésus-Christ. Et qu'il te donne la paix qui surpasse toute intelligence. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et moi, dit l'Éternel, je les bénirai. Apprenons à bénir Israël, à vouloir son bien, c'est ça que je veux dire. Et apprenons à nous bénir les uns les autres de cette manière. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Nous ne savons pas, comme Jacques le dit souvent, nous ne savons pas les conséquences quand nous rencontrons quelqu'un de lui dire que l'Éternel te bénisse. C'est une parole qui est placée dans le cœur d'une personne. J'aurais voulu décrire cette différente bénédiction, mais voilà. Frère, le vœu de mon cœur, le mien, est-ce le vôtre? Ma prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Est-ce mon désir, ma prière, dans ces temps de cruauté qui vise Israël, qui vise la paix de Jérusalem, dans ces temps difficiles? Je voudrais qu'on chante quelques chants sur Israël. Il nous reste, je peux abuser. Oui, quelques chants. Je ne sais pas s'il est connu celui-ci. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. C'est le désir de mon cœur, ma prière. Israël, écoute l'appel de ton Sauveur, de ton Yeshua. Ah, j'avais aussi, là peut-être moins connu, je vais lire les paroles. Ô Seigneur Dieu d'Israël, qui est semblable à toi dans les cieux, qui est semblable à toi sur la terre, ô Seigneur Dieu d'Israël. Ô Seigneur Dieu. Non, pas connu, hein? Non, t'es rien. Ah, ça va nous booster, là. Oui, hein? Ça mérite d'être debout. Il n'y a pas que moi qui suis debout. Je suis jaloux de vous. Et puis on a encore un autre.
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu, tout puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, toujours genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. La 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 la.
Et ensuite le dernier. J'en ai plus de 200-300 hein, de chants hein, israéliens. Mais voilà, je me suis cantonné et je cède la place.
Maintenant, dans Corinthiens, l'apôtre Paul nous laisse ses paroles d'exhortation.